L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voilà donc après avoir lu l'évangile de Nicodème. Nous voilà pour cette nouvelle rencontre autour de l'évangile pour le couple. Nous allons vraiment voir combien le Seigneur désire pour nous que nous puissions les uns et les autres, en tant que couple, vivre cet évangile du mariage, dans le sens où ce n'est pas réservé à une élite, mais c'est vraiment un cadeau qui est fait à tous, et particulièrement aux pécheurs que nous sommes tous. Alors, on va peut-être repartir aujourd'hui d'un nouveau texte dans l'évangile de Jean.
Oui, c'est un texte qui va nous ouvrir sur une dimension fondamentale de la révélation chrétienne, qui est le fruit de la présence de Jésus, qui est la joie. Alors, ce texte retrace le parcours, l'itinéraire de tout croyant qui au départ ne l'est pas et qui vit dans le monde et après rencontre le changement fondamental de la nouvelle naissance dont nous avons parlé la semaine dernière. Alors, c'est dans Jean, au chapitre 16, au verset 20. « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. » Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera.
Voilà, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Il est vraiment important d'accueillir cet appel à la joie de Jésus, qui constate effectivement que dans ce monde, nous sommes bien souvent habités par cette tristesse. Et nos vies conjugales, malgré tout ce qu'on dit, nos vies amoureuses, nos sexualités, après quelques mois, quelques années, sont parfois éprouvantes, difficiles, ont perdu la sève, ont perdu cette joie. Et Jésus vient nous promettre cette joie. Et il vient non seulement nous la promettre, mais en plus il vient nous dire que nul nous l'enlèvera. Et c'est pas une parole en l'air. Rappelons-nous brièvement ce que nous avons évoqué la dernière fois avec Nicodème et l'évangile de Nicodème, de l'eau où Jésus invite Nicodème, nous invite à revivre et de l'eau et de l'esprit.
Oui, dans cet évangile, nous étions appelés justement à découvrir cette nouvelle naissance qui faisait de nos couples renouvelés et fortifiés par le passage de l'Esprit Saint, qui nous permettait de vivre dans les fruits de l'Esprit. On avait abordé ça la dernière fois. On pourrait rajouter cette semaine toute la prophétie d'Isaïe, notamment, sur l'espérance. Voilà que dans une nouvelle logique renouvelée par l'Esprit Saint, nous découvrons quelle est la force de l'Esprit et de la joie dans nos vies de couple. Nous pouvons apprendre progressivement à être des êtres de bénédiction et de joie, c'est-à-dire très concrètement nous lever le matin dans l'allégresse de la journée qui s'annonce et non dans la tristesse et la pesanteur du monde et de la routine. Voilà ce que l'Esprit propose de faire dans nos vies.
Et c'est tout le sens de cet appel à l'espérance, de cet appel à la joie qui est inscrit dans l'évangile de Cana. Rappelons-nous combien cette expérience de l'évangile de Cana et de la période de Cana était illustrée par le fait que le bon vin était au début de ces noces de Cana, et puis au fur et à mesure le vin vient à manquer. Et c'est parce que Jésus intervient, parce que Jésus prend de l'eau et le transforme en vin meilleur que le premier vin des noces, que Finalement, le vin est meilleur au fur et à mesure que s'expérimente la vie conjugale. Et c'est à cette espérance que Jésus nous invite. C'est pour cela que, comme le texte que nous venons de lire concernant la joie, c'est une espérance, c'est une grande espérance à laquelle Jésus nous invite. C'est une grande espérance dans laquelle la foi et la foi chrétienne nous introduit. Ce que nous expérimentons aujourd'hui est moins heureux que ce à quoi nous tendons. Parce que la grâce de Jésus vient nous pénétrer, nous pétrir, et donc nous sommes dans un processus en crescendo, de conversion en conversion, de découverte en découverte. Ce n'est pas rose, ce n'est pas un chemin tranquille. Le Seigneur vient nous pétrir, vient nous convertir. L'épreuve, n'est pas en dehors des vies chrétiennes. Bien au contraire, comme disait la grande Thérèse, Seigneur, tu ne ménages pas tes amis. Mais il nous fait grandir dans ce crescendo, dans cette croissance. Et c'est pour cela que l'espérance que nous avons n'est pas vaine, ce n'est pas une utopie, mais c'est une espérance dans la foi.
L'espérance est une très belle vertu dont parlent bien sûr les poètes, mais que vous trouverez abondamment décrite dans les lettres de saint Paul, parce que l'espérance c'est aussi cette certitude que nous allons vers le royaume et que toute notre vie est orientée vers ce moment fabuleux où nous allons enfin voir le visage de celui que nous avons cherché à rencontrer pendant toute notre vie. Enfin nous pourrons être illuminés par sa gloire. Mais avant d'arriver là, nous avons notre chemin bien humble à parcourir sur cette terre, mais ce chemin est tout tendu vers le ciel. Dans saint Paul, il y a des phrases absolument extraordinaires, justement, où il explique comment est-ce qu'il a couru sans arrêt pour atteindre cette couronne qui lui permettait de rentrer au royaume. Donc nous sommes, comme disait, je ne sais plus si c'était un poète, Alex, ou un philosophe, la tête au ciel et les pieds dans la gadoue, mais en tout cas nous avançons les yeux rivés sur le Seigneur et cela change beaucoup les perspectives.
Et c'est ça qui est important, c'est que cette foi chrétienne n'est pas simplement un petit coup de rafraîchissement, n'est pas simplement un petit peu un relooking, alors ou un coup de lustrage sur notre amour. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur. Et nous voulons ici rappeler combien le cœur de notre foi, c'est concernant le sacrement de mariage, c'est bien ce que soulignait avec autant de force Jésus, et qui est autant repris par Jean-Paul II dans tout son enseignement, c'est qu'il vient vraiment nous sauver, c'est-à-dire que notre aspiration profonde qui est inscrite dans nos gènes, cette aspiration de cette joie, de cette communion, de cette unité conjugale, malgré tous nos désirs, on ne peut pas le réaliser. Et que quand on dit que Jésus est notre sauveur, on est habitué, rappelons-nous, à ce que effectivement que Jésus soit le sauveur de nos vies au niveau du baptême, mais c'est aussi toute la force du sacrement de mariage qui est force du salut également pour notre couple. Et donc effectivement, c'est par la grâce du sacrement de mariage, par cette grâce baptismale pour notre couple dont parle Jean-Paul II, effectivement, il fait de nous et il nous introduit dans cette création nouvelle, dans ce couple nouveau. Donc c'est pas du tout simplement un coup de relookage ou simplement un coup de vernis. C'est quelque chose qui est vraiment qui travaille et transforme notre couple en profondeur. Et la deuxième chose, c'est ça qui est important, c'est que ce salut qui nous est donné au travers de le sacrement de mariage, il est comme vivifié, rafraîchi, constamment renouvelé par ce don de l'Esprit Saint. Et vraiment, c'est en ayant foi dans ce salut qui nous est donné en tant que couple, en accueillant cet Esprit Saint, que effectivement nous goûtons concrètement dans notre vie conjugale, personnelle, familiale, cette joie. Et ce qui est dit, nous touchons justement ces dons. Et comme dit la parole, tout ce qui est bon, juste et vrai. Et c'est là où nous goûtons que la foi n'est pas quelque chose qui vient se plaquer sur notre vie, mais c'est quelque chose qui est transformant, qui est efficace, qui est perceptible, et ça nous introduit dans une expérience de l'amour qui est une expérience vraiment nouvelle de l'amour.
Oui, c'est la troisième dimension des fruits dont nous avons parlé. Après l'espérance et la joie, bien sûr, l'amour, appelé autrement la charité. Nous voilà appelés à rentrer dans une autre dimension de l'amour sur laquelle Jésus d'ailleurs nous interpelle. Il nous dit, les païens savent aussi aimer ceux qui les aiment. Vous, je vous demande plus et je vous rends capable de plus, jusqu'à aimer vos ennemis, nous dit la parole. Donc, sans aller jusqu'à nos ennemis quotidiens, peut-être nous n'en avons pas beaucoup, ou peut-être nous en avons, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur nous appelle à rentrer dans une dimension de l'amour qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Effectivement, l'amour est quelque chose d'extraordinaire qui nous est proposé, mais nous avons du mal à rentrer dans une dimension simplement plus, je dirais, plus profonde que notre sensibilité ou nos goûts. Peut-être qu'il faut qu'on nous apprenions à rentrer beaucoup plus dans un amour plus profond que le Seigneur nous propose.
Et cet amour, cette expérience nouvelle de l'amour, ce n'est pas de nous-mêmes que nous l'expérimentons, mais c'est dans la grâce du Seigneur qui nous fait goûter un amour dont on ne se sentait même pas capable. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce dépassement d'un amour nouveau, plus profond, auquel le Seigneur nous introduit. Et ça, c'est une grande bénédiction. On se retrouve dans quelques instants. Sur les chemins de l'évangile pour le couple, et nous étions en train de de commenter justement une parole de Jésus. Les païens savent aussi aimer ceux qui les aiment. Donc cette parole de Jésus nous montre combien nous devons, en tant que chrétiens, en tant que recevant la révélation du Christ, rentrer dans une expérience nouvelle de l'amour. Et notre couple est en cela directement concerné, dans cette nouvelle expérience de l'amour qui dépasse simplement les sentiments, notamment qui nous introduit dans une expérience du pardon. Maud.
Ah oui, c'est justement ce qui semble vraiment incroyable, c'est que quand on chemine comme ça dans cette espérance du Christ qui nous est donnée, on arrive à expérimenter pour soi-même d'abord cette incroyable miséricorde du Père. Alors je pense qu'il faut un peu l'expliquer, parce que c'est un mot dont on parle souvent, le mot miséricorde, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Miséricorde, en fait, ça voudrait dire littéralement entrailles de mère du Père. Autrement dit, c'est tout l'aspect particulièrement, je dirais, affectueux, tendre, maternel de l'amour du Père, dont les entrailles sont, je dirais, mais comme saisie par toute la détresse que nous pouvons vivre, traverser par nos épreuves, par nos souffrances, par nos galères, voilà. Le Père est là, attentif, et il ne peut pas rester indifférent. Et quand on est emmené par l'Esprit Saint dans cette relation avec le Père, et qu'on perçoit que malgré notre misère incommensurable, il y a un amour et une tendresse de ce regard du Père qui est posé sur nous, alors notre cœur est complètement transformé, bouleversé, parce que quelqu'un nous aime au-delà du raisonnable. Et c'est parce que nous sentons cet amour du Père, cette miséricorde du Père, qu'alors nous pouvons à notre tour faire miséricorde à l'autre. En effet, qui suis-je pour condamner mon frère alors que le Père ne me condamne pas et me pardonne l'ampleur de mes péchés, la profondeur de ma misère? Et voilà que si j'accueille ce regard du Père, alors la misère de l'autre, le péché de l'autre, ses faiblesses, tout ce qui mérite, tout ce qui fait que sans arrêt je bute contre l'autre, va devenir finalement tout à fait relatif, puisque moi aussi je me comporte de la même façon, moi aussi j'ai mes limites, moi aussi j'ai mes faiblesses, et malgré cela, le Père m'aime.
Et c'est là, nous avons souligné, en début de cette émission, nous avons souligné la fantastique espérance dans laquelle nous introduit la foi chrétienne. Rappelons-nous de cette réflexion des apôtres auprès de Jésus, où ils lui disent, quand Jésus souligne l'importance de la jeunesse, de l'unité de l'homme et de la femme, etc. Et les apôtres le regardent et me disent, mais t'es pas fou, quoi. Il n'est pas expédient de se marier, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, l'amour à un moment devient impossible entre un homme et une femme. Ça met du temps, 3 mois, 3 ans ou 30 ans, on sait pas. Mais ça devient trop difficile. Et parce que on se blesse, parce qu'on se comprend pas, parce qu'on se lasse de l'autre, etc., etc. Et c'est là où nous faisons vraiment l'expérience avec Jésus d'une espérance nouvelle de l'amour. Effectivement, humainement, en raison de notre péché, de nos limites, etc., bah, tôt ou tard, cette aventure va finir, ou alors va mal évoluer, va s'attrister. Et c'est pour cela que l'espérance que met Jésus en nos cœurs et au cœur de la foi est très importante, est immense, parce que de cette piquette qui est devenue notre relation, eh bien, il peut la transformer en vin nouveau. Et c'est toute l'expérience, comme tu dis, Maud, de la miséricorde et du pardon. Et c'est parce que nous accueillons personnellement la miséricorde de Dieu, parce que nous exerçons la miséricorde et le pardon l'un avec l'autre, dans des domaines qui nous paraissaient impossibles, si délicats, eh bien, nous rentrons dans cette expérience de la miséricorde dont nous n'avons pas la force. Et c'est cela qui nous permet de construire et d'enraciner notre amour, et finalement de goûter un sentiment, une relation, une communion qui nous paraissait impossible. Et combien de fois, effectivement, nous avons rencontrer ou nous rencontrons de ces couples pour qui, eh bien, c'était effectivement difficile, ça devenait vraiment trop délicat, mais qui, dans cette expérience de l'amour de Dieu, font aussi l'expérience de la miséricorde de Dieu, et comme par hasard, cela renouvelle leur propre tendresse, leur propre regard l'un vers l'autre. Ça permet d'exercer le pardon dans des domaines où c'était plus possible, parce que ça a été trop longtemps répété, etc. Et on vient goûter cette expérience. Et c'est en cela que ça devient pas le sommet de la montagne réservé à une élite, ça devient l'expérience des pauvres, des petits, et de ceux qui justement n'y arrivent pas. Et c'est là où c'est vraiment une grande joie et une bonne nouvelle.
En fait, cette expérience de la miséricorde du Père va nous donner la capacité de pardonner aux autres et de pardonner en particulier à notre conjoint. Est-ce que nous arrivons pas de nos propres forces, nous arrivons à le faire parce que nous nous laissons remplir par la tendresse du Père. Si le Père me pardonne, moi qui ai une dette immense envers lui, comment ne pardonner, je ne pourrais pas pardonner à mon conjoint qui finalement a des petites dettes à mon égard, n'exagérons pas non, tout de même. Donc je suis beaucoup plus proche du péché de mon conjoint que de Dieu, et pourtant Dieu est capable de combler cet écart et de descendre jusqu'à la faiblesse ultime pour justement se pencher sur chaque être vivant. C'est ainsi que, en rentrant dans le regard du Père pour les autres, je vais pouvoir commencer à découvrir que toute personne que je croise, quelle qu'elle soit, est aimée du Père, profondément aimée du Père, et je vais apprendre progressivement à poser sur lui le regard même du Père, en m'appuyant sur cet amour inimaginable dont il nous aime. C'est cette expérience-là qui va donner une joie absolument inouïe, parce qu'à ce moment-là, toute notre vie est remplie de ce regard d'amour du Père, et tout est transformé de l'intérieur. À ce moment-là, je ne peux plus croiser quelqu'un sans me dire « cette personne est bien aimée du Père ». Et pour cette personne, Jésus a donné sa vie, et l'Esprit Saint habite le cœur de cette personne. Alors comment ne puis-je ne pas le respecter, l'aimer, poser sur lui un regard différent de tous mes jugements et toutes ces affaires qui finalement m'encombrent et me compliquent bien la vie et compliquent la vie des autres. Alors dans le couple, c'est encore plus vrai, et sur ce point de vue-là, nous avons évidemment à cheminer. Mais le pardon en couple est une merveille, à condition que le pardon ne prenne pas l'aspect du règlement de compte, bien sûr. Ça, c'est une des grandes difficultés du pardon.
Et ça, c'est cette dynamique justement du pardon, de l'expérience du pardon et de l'amour, est vraiment profondément chrétienne, cette dynamique de mort et de résurrection, de renaissance multiple, qui fait qu'effectivement, nous passons d'étape en étape pour grandir en crescendo. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tant de couples qui sont souvent désespérés ou attristés d'eux-mêmes, de leur cheminement, de leur situation. Et c'est pour ça que tout ce parcours que nous avons déjà opéré ensemble dans cet accueil de cette révélation, de cet évangile pour le couple, est une révélation que nous devons méditer. Et c'est pour cela que, en cet instant, on a envie de reprendre un peu l'expérience de Marie qui, dès le début de la vie de Jésus, quand Marie retrouve et Joseph retrouve notamment Jésus au temple, parler avec les docteurs, elle est vraiment très frappée par tous ces événements qui l'ont bousculée, qui l'ont interpellée. Et il est dit, elle gardait tous ces événements dans son cœur. Voilà. L'important pour nous, c'est que cet évangile du couple, on puisse le méditer, le ruminer, qu'on revienne dessus pour que la parole, un peu comme une huile, comme un onguent, vienne pénétrer notre cœur, pénétrer notre vie. Voilà. Et que nous puissions entendre également cette parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Au travers de l'évangile, Jésus vient nous dire énormément de choses et nous avons à accueillir sa parole et réaliser ce qu'il dit.
À ce moment-là, nous pourrons aussi, avec Marie, nous réjouir comme elle l'a fait dans le Magnificat. Elle a exulté de joie parce que le fruit direct de ce chemin, de méditer, de se soumettre à la parole de Dieu, eh ben, ça fructifie dans la joie. Et nous espérons vraiment que tous les couples qui nous écoutez, vous pourrez profiter de cette occasion pour bénir Dieu pour votre conjoint et le rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans vos vies et d'être présent à vos côtés pour vous rendre possible l'amour qui est humainement impossible.
Voilà, pour illustrer cette espérance, ce cadeau d'espérance que le Seigneur nous donne, que le Christ nous donne, nous allons peut-être relire certains versets de l'évangile de Jean, des chapitres 14 à 17, qui illustrent vraiment cet appel, cet appel pressant de Dieu à accueillir cette révélation.
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. »
Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.
Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis.
Père, garde-les pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient parfaits dans l'unité.
Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.
Voilà, que nous puissions vraiment accueillir cette parole d'espérance fantastique, parce que le Seigneur veut nous faire un cadeau immense. Nous avons à habiter en Dieu, en tant que couple, et Dieu vient habiter en nous, en tant que Dieu, en tant que Créateur et Sauveur. Béni soit-il.
The intimate friendship of the Holy Spirit.